Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Come to Paris, come to Paris with me. Come to Paris, come to Paris. You'll see all the beauty, all the wonderful things, all the reasons why I want you with me.
Bonjour à tous. Le Brexit bientôt en marche. Le 29 mars, très exactement, la première ministre britannique Theresa May activera le fameux article 50 pour lancer les négociations. Dans le milieu universitaire britannique, on avait fait campagne contre la sortie de l'Europe. On s'inquiète donc et surtout on essaie de trouver des solutions pour continuer à bénéficier des avantages de l'Union européenne. À Londres, Marie Billon.
Des universités britanniques à Paris. C'est un projet qui est sérieusement envisagé par la communauté des établissements de Paris Seine. Elle aurait déjà fait une offre à au moins deux institutions, Oxford et Warwick. Le but est de leur offrir un terrain sur le campus international de Paris Seine à 35 minutes de la capitale. Un coup de maître pour la France qui y gagnerait en prestige, mais c'est aussi une opportunité pour les établissements britanniques. Malgré le Brexit, ces derniers garderaient ainsi un pied en Europe. Enregistrés en France, ils pourraient continuer à recevoir les fonds européens et surtout, ils pourraient appliquer leur grille de tarifs actuelle valable pour les étudiants ressortissants de l'UE, souvent deux fois plus basse que pour les étrangers hors Union. Le recrutement de professeurs et chercheurs européens en serait aussi facilité. La tentation est grande, mais Oxford a déjà dit no. La prestigieuse université préfère rester exclusivement en Angleterre, sa seule maison depuis plus de 700 ans. L'université de Warwick, quant à elle, hésite. Il faut dire que le délai pour la mise en œuvre paraît lointain, 2021, pour que tout soit en ordre de marche. Autant dire que le Brexit aura largement eu le temps de s'être concrétisé, mais tant que les négociations n'ont pas abouti, et elles n'ont même pas encore commencé, les universités ne savent pas du tout ce que la sortie de l'Union européenne signifie pour elles. Si les facultés se voient totalement coupées de l'UE, ce serait un désastre, selon beaucoup de chanceliers d'universités. Perte d'attractivité, d'étudiants, de professeurs, ce serait également un grand manque à gagner pour les économies locales et pour le PIB national. Le gouvernement espère donc parvenir à une solution qui ressemblerait le plus possible au statu quo. Les universités, elles, devront prendre leurs décisions avant d'avoir toutes les informations.
When I see lots of it, I want to stand up and sing.
Money's my favorite, that's why I crave it. Being a rich, wicked old witch. What should I say?
Money's the love of my life.
Et c'est dans ce contexte que l'on célèbre cette semaine les 60 ans du traité de Rome, le traité fondateur de l'Union européenne, signé alors par 6 pays, dont le Luxembourg. C'est dans ce petit pays entre la France et la Belgique que nous commençons notre série de reportages sur une Europe aujourd'hui très malmenée, Luxembourg, pays de la finance qui espère bien tirer des bénéfices du Brexit, mais surtout un pays qui a dû longtemps batailler avec une mauvaise réputation de paradis fiscal et qui, sous la pression de l'Europe, justement, a dû faire d'importantes réformes. C'est le reportage sur place de Domiti Piron.
Difficile ici de ne pas tomber sur quelqu'un qui travaille dans le secteur financier. C'est le cas de Yao, cette fiscaliste chinoise installée dans un café du centre-ville, trouve logique que le Luxembourg se soit imposé comme la place financière de l'Europe.
À cause de la flexibilité que Luxembourg a eue, à cause d'un petit pays et aussi la flexibilité de mentalité d'accueillir toutes les différentes nationalités ici à travailler, tous les frontalières, c'est pour ça qu'il a donné une force à le marché luxembourgeois. Et on s'adapte aux différentes réglementations, on est très réactif.
Dans les rues, on croise des Japonais, des Hollandais, des Canadiens et sur un même trottoir, on trouve la Bank of China, la Banque Populaire Italienne ou encore BNP Paribas. Sébastien, un jeune luxembourgeois qui travaille dans l'enseignement, estime que ce n'est pas un cliché de dire que le Luxembourg dans l'Union européenne, c'est la finance.
On est vraiment un centre, et puis un centre économique et un centre de finances aussi, donc je le vois plutôt vraiment comme une puissance et un pays qui tire sa carte majeure dans ce domaine en fait. Je pense que les lois sont faites ici de manière à être un peu plus profitable à certains, parfois dans l'excès malheureusement, mais elles sont plus libre.
Dans la lutte contre l'évasion fiscale et la garantie de transparence de la finance, le Luxembourg a souvent été montré du doigt comme un parasite dans l'UE. Mais selon Julian Presbert de la Luxembourg School of Finance, cette mauvaise réputation n'a plus lieu d'être.
Pendant des années, le Luxembourg a été réprimandé pour ne pas avoir insisté que le client soit en règle dans son domicile. C'est devenu maintenant l'obligation de chaque banquier. Avant, on fermait les yeux, on disait « c'est pas notre problème ». Et maintenant, si tu viens chez une banque, ils vont pas seulement vérifier que c'est pas de la drogue ou autre chose, non, ils vont aussi vérifier et demander des appuis, des justificatifs, pour dire « est-ce que vous avez payé votre fiscalité sur cet argent ?» C'est passé. Je crois que presque plus personne parle de ça maintenant.
Sauf dernièrement avec le scandale LuxLeaks qui révélait en novembre 2014 un vaste système d'accords fiscaux secrets entre le Luxembourg et des multinationales. 340 entreprises ont ainsi pu éviter l'impôt dans leur pays d'origine grâce au fisc luxembourgeois entre 2002 et 2010. La Commission européenne a donc imposé des mesures pour renforcer la transparence fiscale et l'échange automatique d'informations sur les rescrits fiscaux est désormais obligatoire. En décembre dernier, le Luxembourg a donc dû modifier ses règles fiscales pour interdire certains montages abusifs. Mais cette vigilance accrue de l'UE sur la finance luxembourgeoise n'est pas au goût de tous, comme Stéphane, qui sort justement de son agence bancaire.
Pour l'instant, l'Union, elle met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose, avec tout ce qui est réglementation en vigueur. Ça devient un peu plus concurrentiel. Donc, là-dessus, c'est moins évident à dire.
Aujourd'hui, la principale question qui se pose ici est de savoir si cette place financière pourra profiter du Brexit. Pour Nicolas Maquel de Luxembourg for Finance, l'agence de développement du secteur financier dans le pays, les institutions financières installées à Londres auraient tout intérêt à venir ici, à Luxembourg.
Pourquoi le Luxembourg ? Parce qu'on y parle plusieurs langues, que l'anglais généralement est couramment admis comme langue administrative aussi, à côté de l'allemand et du français, que le Luxembourg est un pays très stable aussi bien en matière économique, fiscale et en matière réglementaire. Donc voilà, on a beau penser du Luxembourg que c'est un petit pays, mais en matière de finance, c'est un pays qui joue un très grand rôle.
Spécialisé dans les fonds d'investissement et la gestion de fortune, le Luxembourg espère donc attirer les entreprises de la City. Les banques HSBC et JP Morgan ainsi que la société de gestion d'actifs M&G envisageraient d'ailleurs déjà un transfert d'activité à Luxembourg.
La Hongrie, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Le 14 mars dernier, les juges de la Cour européenne de Strasbourg ont condamné la Hongrie pour n'avoir pas respecté la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont deux demandeurs d'asile originaires du Bangladesh qui ont porté plainte. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère. Expliquez-nous d'abord pourquoi ces deux demandeurs d'asile ont saisi la Cour.
Oui, effectivement. Alors, les faits remontent à septembre 2015. L'année 2015, vous vous en souvenez, c'est l'année où des centaines de milliers de réfugiés sont arrivés en Europe, en passant par la Grèce, la Serbie, puis la Hongrie, jusqu'au 15 septembre 2015, où la Hongrie a verrouillé sa frontière par une clôture de barbelés. Et ces deux ressortissants du Bangladesh, Ilyas et Ahmed, sont arrivés ce jour-là. Et comme beaucoup d'autres réfugiés, eh bien, ils se sont retrouvés bloqués devant la clôture hongroise. Alors, dans cette clôture, il y avait une porte menant à une zone de transit. Ceux qui voulaient demander l'asile à la Hongrie pouvaient y entrer. C'est ce qu'ont fait Ilyas et Ahmed. Mais bien qu'ils aient demandé l'asile, ils ont été expulsés vers la Serbie.
Et pour quelles raisons précises, Florence, la Cour a-t-elle condamné la Hongrie ?
Eh bien, Ilyas et Ahmed sont restés 23 jours dans cette zone de transit, entouré de barbelés qui ressemble fort à une prison. Or, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dit qu'on ne peut pas priver de liberté un demandeur d'asile, sauf pour un motif valable. La Cour a donc estimé qu'Ilyas et Ahmed avaient effectivement été privés de liberté. Et d'autre part, il n'aurait pas dû être expulsé vers la Serbie, car selon la Cour, ce n'est pas un pays sûr pour les réfugiés. Les autorités serbes n'ont pas encore mis en place une véritable procédure d'asile. Enfin, dernier point, les juges ont relevé que la procédure hongroise n'avait pas vraiment permis à Ilias et Ahmed de demander l'asile. On leur a donné uniquement des informations écrites, alors qu'ils ne savent pas lire. Donc voilà pourquoi les deux plaignants ont gagné leur procès. C'est une ONG hongroise, le comité Helsinki, qui les a défendus. Et la Hongrie doit leur verser 10 000 euros chacun.
Et y a-t-il eu une réaction du gouvernement hongrois? Quel impact peut avoir ce jugement?
Alors, pas de réaction officielle. En général, le gouvernement hongrois a peu d'estime pour la Cour européenne. Lors d'une condamnation antérieure de Budapest, le président du Parlement hongrois avait même déclaré que les juges de Strasbourg étaient des idiots. Mais ce jugement est important parce que finalement, il attaque les deux piliers fondamentaux de la politique du gouvernement Orban. Le premier, c'est le renvoi automatique des demandeurs d'asile en Serbie. Et le deuxième, c'est la mise en détention systématique de tous les réfugiés. Or, juste après la décision des juges de Strasbourg, la Hongrie a promulgué une nouvelle loi. Elle autorise à mettre tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont en situation régulière, dans des conteneurs entourés de barbelés. Donc voilà la réponse du gouvernement hongrois au juge. Alors bien sûr, il va payer l'amende imposée par le tribunal, mais la promulgation de cette loi veut clairement dire qu'il ne changera pas de politique, car cette politique anti-réfugiés séduit une bonne partie de son électorat et les électeurs d'extrême droite.
Merci Florence Labruyère à Budapest. Elles sont de retour, ou plutôt elle est de retour. Masha Aliokhina, l'une des membres fondatrices de Pussy Riot, groupe punk russe féministe et anti-Poutine. Le week-end dernier, elle était dans une petite salle avant-gardiste du quartier de Brooklyn à New York. Pour son spectacle Révolution, elle a raconté à nouveau son histoire, son emprisonnement en Russie après une performance jugée blasphématoire dans une église. Aux États-Unis, où le président Trump affiche son admiration pour le maître du Kremlin, le spectacle avait évidemment une résonance particulière. À New York, Grégoire Portier.
Ni le spectacle ni l'audience n'étaient particulièrement punk vendredi, mais le message de l'œuvre, intitulé « Révolution », restait lui sans concession. Fusion d'un concert et d'une lecture, davantage que comédie musicale, l'œuvre baroque marque une nouvelle étape pour les Pussy Riot. Sur fond de musique électro, Masha Aliokhina déclame leur histoire avec force, tout en restant le plus souvent statique. Dans son dos, des vidéos d'archives soulignent son propos sur un écran géant où l'on peut aussi lire la traduction du texte, car évidemment, tout est en russe. Posée paisiblement dans sa loge après une heure de spectacle et à peu près autant de temps de dialogue avec un public avide d'échanger avec elle, la Pussy Riot estime que son expérience est universelle.
Je ne fais pas de différence entre les Américains et les autres. Nous avons joué dans 7 villes ici et chaque fois, beaucoup de gens sont venus nous voir. Notre principal message, c'est le combat contre l'indifférence et la peur. Nous montrons juste un exemple, mais le monde a besoin de beaucoup d'autres exemples. Je crois que le public nous a bien compris. Je l'ai vu dans leurs yeux.
Pendant 2 semaines, Masha a tourné sur la côte ouest des États-Unis, libérale, mais aussi dans des États moins naturellement progressistes comme le Nouveau-Mexique ou le Texas. Avec chaque fois une ambiance différente, mais toujours le même succès. Les organisateurs de la soirée assurent que cela fait longtemps qu'ils voulaient inviter les Pussy Riot, mais ils concèdent que forcément, l'élection de Donald Trump, son discours autoritaire et son enthousiasme assumé pour Vladimir Poutine donnent encore une autre valeur au spectacle. Masha ne refuse pas le parallèle.
Aujourd'hui, dans nos deux pays, les deux présidents croient aux frontières et aux armes. Mais nous, nous voulons du changement. Nous pensons que les mots sont aussi puissants que les armes et que pour dépasser ces politiques gouvernementales, il faut agir et être ensemble. Peu importe notre nationalité ou notre sexe, les idées ne connaissent pas de frontières.
Dans la salle, on entend parfois parler russe. Sur l'écran, les références sont internationales puisque apparaît par exemple « La liberté guidant le peuple », le tableau de Delacroix. Marilyn a apprécié le côté intimiste de la soirée et bien sûr le charisme de Masha mêlant délicatesse et résolution.
J'organise beaucoup d'événements politiques et c'est une source d'inspiration. Ce soir, le spectacle était incroyable, tellement plein d'énergie. La musique était vraiment émouvante et rendait toute l'intensité de ce que Masha exprimait avec tout son cœur en racontant sa propre histoire. C'était très exaltant, d'autant que cela venait sans le filtre des médias.
Masha a déjà présenté son œuvre à Moscou, mais en cachette. Elle assure qu'elle la rejouera bientôt en Russie et dans le reste de l'Europe. Car son texte, qui n'a pas encore été publié, devrait bientôt être traduit dans plusieurs langues, notamment en français. Aux États-Unis, le producteur Alexander Sheparoukin a perçu une dérive autoritaire et raciste et il s'étonne à peine que le metteur en scène du spectacle n'ait pas obtenu de visa pour suivre la tournée. Il est ainsi d'autant plus convaincu que la performance dépasse le cadre strict de la Russie et du combat des Pussy Riot et que le style non académique de Masha peut être entendu partout.
Elle n'est ni chanteuse ni danseuse, elle ne peut pas écrire de musique, mais elle voulait s'exprimer et je crois que sa plus grande qualité, c'est cette écriture vraiment spectaculaire. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il fallait monter son texte sur scène et le résultat est puissant. Son manifeste, c'est la lutte contre l'indifférence. Si vous ressentez fortement quelque chose et que vous avez envie de contribuer, de vous battre, de résister ou juste de soutenir une cause, alors vous devez le faire sans savoir si cela va marcher ou non.
Tout le monde n'a peut-être pas le courage de Masha Aliokhina qui a assumé d'aller un an et demi en prison. Et il n'y a évidemment pas d'image d'archives, seulement des mots pour témoigner de ce moment douloureux. D'ailleurs, avec cette performance moins violente, moins provocante, moins punk, prend-elle finalement moins de risques? Non, car son texte reste incendiaire. Et malgré son apparence fragile de prime abord, son regard troublant n'a rien perdu de sa détermination.
C'était un soir, la bataille de Reichshofen. Il fallait voir les cavaliers chargés.
Attention, cavaliers, chargés, une main.
C'était un soir, la bataille de Reichshofen.
La guerre de 1870 et surtout la bataille de Reichshofen qui a fait 20 000 morts côté français et allemand en une seule journée a désormais son musée à Wörth, près de Strasbourg. On essaie de comprendre cette défaite qui a conduit à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par la Prusse. Sur place, Corinne Fugler.
Angèle Portaz est bénévole aux souvenirs français. Autour de Wörth ou à Frochevillers, l'association entretient toujours une quarantaine de tombes et de monuments militaires.
Il y a énormément de tombes et de monuments. On dit qu'il y en a près de 200 allemands, certains mélangés, certains français. Il reste peu de choses parce que à la fin de la Deuxième Guerre, les Allemands et les Français se sont un peu pris en grippe et les uns ont fait sauter, dynamiter les monuments des autres.
Le souvenir français, justement, est né en Alsace et en Lorraine occupée, 2 ans après la bataille de Reichshofen. L'association se charge également de présenter aux plus jeunes les grands faits militaires. Montrer une page d'histoire, c'est aussi l'ambition de la mairie de Wörth, qui a installé son musée dans un château fort du XIVe siècle, en plein centre de la commune. Les 10 heures de combat meurtrier sont présentées en détail grâce à des objets glanés au fil des générations sur les différents champs de bataille du secteur. Dans les vitrines du musée, des tableaux, des armes, des uniformes et cet objet bizarre qui fascine Sylvie.
Alors c'est un objet en bois, ça s'appelle une patience et qui en fait est faite pour lustrer le bouton d'uniforme. Donc on peut lustrer sans salir en fait son uniforme.
Sylvie tient l'accueil du musée. Pour accrocher les plus jeunes, elle les envoie à la chasse aux lions.
Et oui, il y a quelques animaux sauvages qui se cachent chez nous, surtout quand on regarde les différents casques, comme par exemple le casque bavarois où de côté vous avez un joli lion qui est en fait l'emblème de la Bavière. Et parfois aussi il y a des casques avec des aigles où il y a écrit FR au-dessus, c'est le FR du casque prussien qui veut dire Frédéricus Rex, le roi de Prusse.
C'est le sacrifice des cuirassiers qui a permis la retraite des soldats de MacMahon. Et Wörth est devenu pour les Allemands le symbole de la victoire sur la France.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité internationale.